Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 12 à 16. Actes, chapitre 5, versets 12 à 16. Au nom de Jésus. De nombreux miracles et prodiges étaient accomplis par les apôtres parmi le peuple. Les croyants se tenaient tous ensemble dans la galerie à colonne de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux, et pourtant le peuple les estimait beaucoup. Une foule de plus en plus nombreuse d'hommes et de femmes croyaient au Seigneur et s'ajoutaient à leur groupe. Et l'on se mit à amener les malades dans les rues, on les déposait sur des lits et des nattes, afin qu'au moment où Pierre passerait, son ombre au moins puisse recouvrir l'un ou l'autre d'entre eux. Une foule de gens accourait aussi des localités voisines de Jérusalem. Ils apportaient des malades et des personnes tourmentées par des esprits mauvais, et tous étaient guéris. Amen. D'où le thème de notre culte ce matin. L'Église à la fois reflet et ombre de Jésus-Christ. Il existe des hommes et des femmes dans l'histoire de l'humanité qui ont marqué l'histoire d'un pays, par exemple, l'histoire de leur association, de leur Église, de leur communauté, grâce à leur charisme, leur capacité de fédérer tout un groupe, ou fédérer une foule, ou une population même. Mais quand ces personnes-là partent ou disparaissent ou meurent, par exemple, tout de suite, l'inquiétude, la peur, l'angoisse peuvent même submerger dans la société. Comment serait la suite? Cette réaction, je trouve, elle est plus que naturelle et compréhensible. Cette inquiétude est vérifiée au niveau des organisations humaines. Mais en ce qui concerne l'Église de Jésus-Christ, cela ne devrait pas être le cas. C'est vrai que l'Église est dans le monde. Mais si et seulement si l'Église ou la communauté ne dépendait pas uniquement du charisme de son leader, oui, l'Église persiste. Ici, dans ce texte, Luc nous montre que Jésus est un vrai berger. Car même tout en étant reparti auprès du Père, l'œuvre de Dieu ne s'affaiblit pas. Imaginez un peu, c'était la crainte des disciples. Si tu pars, que devrions-nous faire pour continuer cette œuvre? Mais regardez si vous avez suivi la lecture. Au contraire, si vous suivez bien ce qui a été dit, nous pouvons constater que l'intensité de l'œuvre de Dieu était encore plus importante quand Jésus est parti. C'est ce qui est dit ici. Plus Jésus est reparti auprès du Père, plus la manifestation des œuvres de Dieu était encore plus grande. Et en lisant et en relisant ce texte, une parole de Jésus m'est revenue à l'esprit, dans Jean chapitre 14, verset 12. Voilà ce que Jésus avait dit à ce moment-là. « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. » Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et la suite, écoutez très bien, il en fera même de plus grandes, parce que je vais auprès du Père. Interpellant, non? Est-il possible que nous puissions faire des œuvres plus grandes que Jésus avait fait? C'est lui qui l'a dit. Et là, je vous dis oui et non en même temps. Et je vais commencer par le non. Non, nous ne pourrons jamais être à l'égal de Jésus parce que nous ne serons jamais comme lui. Mais oui, parce que Jésus voulait dire par là, c'est parce qu'il va aller auprès du Père et que son œuvre continue à travers ses disciples si fragiles et si faibles. Ou plus exactement, le Christ ne les a pas du tout abandonnés comme ils en avaient eu peur lors de sa mort. Le Christ est toujours parmi eux et justement, cela est prouvé par les signes et les prodiges annoncés ici qui sont repris dans le texte. Pour Luc, les guérisons dans ce que les disciples ont effectué sont des signes qui indiquent, signe ici en grec, c'est comme un panneau d'indication, qui indique ou qui pointe du doigt quelqu'un. C'est le Christ qui a fait tout cela. Ce n'est pas nous, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Jean. Souvent, les gens sont admirés sur ces gens-là. Mais ah, il a un don, ce pasteur, il a un don, cet évangile. C'est un signe qui indique le Christ. Et ce n'est pas normal si le signe revient à la personne. Les signes devraient indiquer le Christ. Et de ce fait, ces signes indiquent clairement que le Christ est toujours parmi ses disciples. Et il le prouve avec les miracles et les guérisons. Et pour Luc, les guérisons, les miracles, sont les traces de la présence de Jésus. On va dire les traces de ses pas. Il est invisible, mais il est là. Regardez au verset 15, il est dit que l'ombre de Pierre pouvait même guérir les malades. Est-ce que ça ne vous a jamais tracassé cette histoire-là? L'ombre, paraît-il que Pierre, il traversait juste la foule et son ombre guérissait les malades. Il ne disait rien, il ne disait même pas au nom de Jésus, lève-toi, son ombre. Incroyable. L'ombre, ici en grec, parle d'une présence. Ce n'est pas l'ombre comme notre ombre qui nous suit. C'est une présence imminente, une réalité spirituelle. Et ce n'est pas une simple ombre. Elle est comme ce qui est écrit lors de la visitation de l'ange Gabriel à Marie. Rappelez-vous, dans Luc chapitre 1, verset 35, l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira comme une ombre. » C'est pourquoi on appellera saint et fils de Dieu l'enfant qui doit naître. L'ombre de Dieu parle de présence de Dieu. Et cela sous-entend la présence de Dieu, une présence active qui agit, une présence qui crée comme l'Esprit de Dieu, qui planait, qui mouvait sur le néant dans Genèse chapitre 1. Et quand l'ombre de Dieu était au-dessus du néant, la création a pu se faire. Une présence réelle de Dieu au sein de son Église. Et non pas juste une présence symbolique dans notre tête, oui, le Christ est parmi nous en esprit. Il est là. Il est ici ce matin. Mais tu ne le vois pas. Il te voit. Une présence réelle, mais à la fois très discrète. Et c'est ça qui est merveilleux avec notre Seigneur. Il est très discret, le Seigneur. Il ne fait pas de bruit. Une histoire vraie, une fois, un homme de Dieu qui a révélé que le Christ était présent pendant le culte, il l'a vu, et à la fin du culte, il racontait, je voyais toutes les personnes qui prenaient place, et le Christ qui était assis devant, il regardait chacun qui entrait. Et il avait fait une petite remarque pour dire que les gens oublient que je suis là pendant le culte. Mais cette histoire m'a beaucoup aidé pour dire, n'oublions pas, chers amis, quand tu viens ici, c'est le Christ qui t'attend. Pas la communauté, pas le pasteur. Le Christ, il est là, il t'accueille. Et ce qui fait toujours fait la caractéristique de notre Seigneur, son humilité, qui ne s'impose pas malgré sa puissance. Et dans ce récit, il se met même en retrait. J'aimerais insister sur ce contraste, le Christ qui se met en retrait. L'Esprit de Dieu est puissant. On ne peut pas le limiter ni le contourner, mais sa façon d'agir est dans la discrétion totale. Ce n'est qu'à l'impact de son œuvre que nous pouvons voir sa force. C'est après coup, comme on dit, qu'on a vu, ah, le Seigneur était là, je ne savais pas. Et c'est ce que Jésus avait même dit à Nicodème, le vent souffle où il veut, tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Voilà ce qui se passe pour quiconque naît de l'Esprit de Dieu. Jean chapitre 3, verset 8. Donc nous n'avons aucun contrôle sur Jésus. Nous ne pouvons pas lui donner des ordres, fais ceci, fais cela. Mais c'est ce qui est sûr, il agit certainement et toujours de façon inattendue. Et c'est toujours une grosse erreur de se vanter. Moi, personnellement, je le dis toujours, et de croire que nous pouvons donner de l'ordre à l'Esprit de Dieu. Parfois, nos prières se transforme en ordre. Seigneur, garde ma maison en ce moment-ci. Seigneur, regarde mes enfants là-bas. Comme tu es le chef, et c'est lui qui est le serviteur. Bon, ok, quel est l'ordre suivant? Tu ne donnes pas d'ordre à Dieu. Tu supplies Dieu. N'oublie pas. Et dans les récits des Actes des apôtres, ils précèdent toujours les apôtres. Et ces derniers ne font que suivre après et accomplir ce qu'ils montrent comme indication. Regardez bien les exemples précis avec la famille de Cornèle. Pierre ne savait pas encore ce qu'il allait se passer, ni ce qu'il doit dire. Mais voilà des hommes envoyés par Cornèle, vient lui chercher par ordre de l'ange de Dieu. L'ange de Dieu lui dit, va dans tel endroit, il y a un monsieur qui s'appelle Pierre, appelle-le et il va te dire quelque chose. Or, Pierre n'était pas au courant de la situation. Et son message consiste à dire que Pierre avait un message à dire à Cornèle et à sa famille. Pourtant, juste à ce moment-là, il avait vu une vision, une sorte de grande nappe tenue aux quatre coins du monde qui s'abaissait à terre. Et dedans, il y avait toutes sortes d'animaux quadrupèdes et de reptiles et toutes sortes d'oiseaux. Et une voix lui disait, « Debout, Pierre, tue et mange. » À ce moment-là, l'envoyé était aux portes de sa maison. Lui, il ne savait encore rien du tout. Et il est dit que Pierre ne savait pas ce que cela signifiait. Lui, il croyait que c'était juste « Ah, peut-être que j'ai faim, donc le Seigneur voulait me donner à manger. » Ça n'a rien à voir avec cette histoire d'animaux impurs. Ça n'a rien à voir. Mais juste après avoir vu cette vision, quand la nappe a été retirée dans le ciel, les envoyés de Cornèle frappaient à la porte. Et c'est là qu'il a pu faire le lien avec la vision et ce qui était en train de se passer. Vous voyez, ce ne sont pas les apôtres qui planifiaient les choses comme quoi, allez, on va aller chez Cornèle, on va le convertir, on va faire des miracles. Ce n'est pas du tout cela. C'est l'Esprit Saint qui précède, c'est l'Esprit Saint qui programme quel genre de miracles vont-ils accomplir. Et ils ne font qu'exécuter l'ordre du Saint-Esprit sur leur chemin. Donc le sujet n'est pas l'apôtre, le sujet c'est le Saint-Esprit. Et la question qui se pose de notre côté, lorsque le Saint-Esprit agit, et le Saint-Esprit agira, moi je suis sûr, il agit toujours, il nous amènera des gens venant de partout, de tous bords, comme il le fait ici dans ce texte. La question qu'on se pose, sommes-nous prêts à les accueillir, comme Cornèle, à pouvoir répondre à leurs besoins? Et regardez dans ce texte, les disciples ne sont pas allés chercher des gens ni à gauche ni à droite. Ça n'a jamais été le cas. Ce sont plutôt les gens qui sont venus de partout, par de bouche à oreille. Et quand ils ont vu ce qui s'est passé dans la communauté, l'œuvre de Dieu qui se manifestait, les gens ne sont pas insensibles à cela. Et cela me fait penser à ce qui est dit dans Ésaïe chapitre 60, verset 4. « Alors des nations marcheront vers la lumière dont tu rayonnes. » Des rois seront attirés par l'éclat dont tu mettras à briller. Regarde bien autour de toi et vois tous tes enfants, ils viennent et se rassemblent auprès de toi. Tes fils arrivent de loin, on ramène des filles en les portant dans les bras. C'est ce qui s'est passé avec Salomon. Les gens de quatre coins du monde sont venus pour entendre les paroles de sagesse du roi, la reine de Saba. Alors l'appel qui est lancé à travers ce texte, chers amis, est le suivant. Le Seigneur, lui, il veut continuer son œuvre. Il veut manifester sa présence en nous. Mais la question, sommes-nous disponibles pour lui? Alors soyons attentifs à son appel, car il nous mettra sur nos chemins des personnes qui auront faim et soif de lui sans que nous le sachions. Hier, j'étais invité par une famille musulmane que je ne connais même pas et qui voulait avoir un entretien. C'était vraiment quelque chose de spontané. Et on a discuté des heures et des heures. Et c'est là, quand j'ai terminé ma prédication, Seigneur, waouh, tu es en train de faire un clin d'œil pour dire, regarde, c'est moi qui t'amène les gens, mais pas toi. Es-tu prêt à les accueillir, même s'ils sont différents de toi? Es-tu prêt à parler avec eux, même s'ils ne croient pas le même Dieu que toi? Tu es une lampe que Dieu a allumée. Tu n'es pas fait pour être caché sous un seau, ou au contraire, il te place sur un support, afin que ceux qui entourent voient ta lumière, viennent autour de toi. Tu es une lumière, et une ville construite sur montagne ne peut pas être cachée. Alors, puisque nous avons été créés à l'image de Dieu, que nous sommes le reflet de Dieu, malgré notre finitude, notre petitesse, nos manquements, nos imperfections, justement, moi, je crois, plus je suis imparfait, plus Dieu m'utilise. N'attends pas, ah, mais je ne suis pas encore prêt, je ne suis pas encore au top, je suis... Quand est-ce que tu seras au top? Parfois même, on se réfère aux anges, on avait parlé à la formation des lecteurs hier, les anges ne sont pas des exemples, ils sont nos serviteurs. Alors là, c'est une erreur. Les gens vont s'étonner, comment se fait-il que toi, qui es ignoble, indigne, mais tu es le porte-parole du Christ, c'est ça la bonne nouvelle. Dans ce monde, puisque tu es ceci et cela, ah, tu es digne d'être notre porte-parole. Et les gens vont s'étonner de voir le contraire. Nous sommes si insignifiants, pourtant Dieu œuvre et accomplit des choses qui nous dépassent. Eh bien, la réponse est toute simple. Pour que la gloire lui revienne à lui seul. Amen.